cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard le 15 décembre 1994.
essayer de comprendre le point de vue de la réalité. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Ah, il y a donc dans l'être, dans ce qui est en tant qu'il est, non pas un état de perfection, un principe, quelque chose qui est premier, quelque chose qui est ultime, l'être en acte. N'est pas seulement un état, parce que les états sont corrélatifs. Je dépasse cet aspect corrélatif. Je dépasse la dualité. Comme je dépassais la dualité au niveau de la substance. Au niveau de la substance, la dualité, c'est homme-pierre. Ici, la dualité, c'est sommeil éveillé. Contemplation en acte, capacité de contemplation. Oui, c'est tout à fait une autre dualité. Et le dépassement de cette dualité, c'est le principe, l'acte. Et je fais ça parce que mon interrogation m'oblige de dépasser cette dualité. Je ne peux pas demeurer dans la dualité. Vous savez que c'est une maladie de demeurer dans la dualité. Ça détracte. Parce qu'il y a des personnes qui restent exprès dans la dualité, hein, qui ne veulent pas dépasser la dualité. C'est mieux rester dans la dualité. Et au bout d'un certain temps, ça devient une maladie. Il y a une structure profonde, c'est plus qu'une structure, une finalité. Alors là, réfléchissez sur structure, finalité. Parce qu'au fond, c'est ça. La substance, c'est la structure. L'acte, c'est la finalité. Alors, il faut découvrir ça à l'intérieur même de l'être, de ce qui est en tant qu'il est. Comment dépasser cette dualité dont j'ai l'expérience, les deux états, imparfait, parfait. Le monde se divise toujours en imparfait, en parfait. Dans l'évangile, vous voyez ça, venez les bénir, mon père. Et les autres, hein, les sorciers, les impudiques, les menteurs, tout ça, l'état imparfait symbolisé par cet abîme de soufre. C'est très curieux, hein, c'est y a une dualité très très profonde qu'on porte comme ça, deux états, imparfait, parfait. Alors le dépassement, c'est la finalité. C'est la finalité qui explique cette dualité. Vous ne pouvez pas l'expliquer autrement. Alors, vous pouvez très bien dire, ah, moi, je ne veux pas l'expliquer, je constate. Je constate. Je constate le bien et le mal, ça m'est égal. Il y en a qui ont choisi d'être à gauche, il y en a qui choisissent d'être à droite. Très bien. de ce qui est imparfait vers le parfait, de ce qui est en puissance vers le parfait. Découvrez ça pour vous. Bon, Aristote nous donne un dit quelquefois qui, je crois, sont admirables. Mais il faut les découvrir, vous. Il ne faut pas répéter. On a le droit de répéter, mais en le vivant. En découvrant cette expérience, on a tous l'expérience du passage de l'imparfait vers le parfait. Si vous n'avez pas cette expérience-là, essayez de la voir. Vous avez quand même grandi. Imparfait, le noviciat. Noviciat. On ne sait pas très bien où l'on est. Alors oui, c'est toujours ce passage. Avant d'entrer, pour ceux qui étaient déjà un peu installés dans la vie, ils savaient très bien. Le noviciat, pour devenir comme des enfants, comme bêtises. On ne voit rien du tout. On nous guide. On nous dit ceci, le lendemain, on nous dit autre chose. Alors soi-disant, on va de l'imparfait vers le parfait, on n'y croit plus rien. Et c'est vrai, ça. Psychologiquement parlant, c'est vrai. Ah. Divinement parlant, c'est autre chose. C'est constant, ça. Et tant qu'on n'a pas découvert l'ordre dans l'être de ce qui est en puissance, de ce qui est en acte, vous ne pouvez pas avoir la paix. C'est curieux, ça. Hein, vous savez, c'est si important, cette découverte. Parce que cette découverte, c'est la découverte de la finalité. Donc c'est radical. Aristote a découvert. Thomas d'Aquin a découvert. Mais entre deux, marécage philosophique. Il n'y a pas que le marécage politique, il y a le marécage philosophique. Qui est encore beaucoup plus dangereux, puisqu'il regarde toute la vie. Alors, je lis maintenant les questions. Il me semble avoir saisi que l'expérience de l'amour d'amitié donne une nouvelle connaissance affective, au-delà de la connaissance quantitative. Très bien. Elle permet de saisir une modalité de l'être irréductible à la connaissance quantitative. Elle implique un dépassement actuel vers le bien qui attire. C'est très juste. Connaissance affective me met en présence de la finalité du bien qui m'attire. Chose curieuse. Il y a des gens qui ne font cette expérience de l'amour que quand ils ont 40 ans. Je l'ai vu. Ils sont tout drôles. Il y en a qui font cette expérience à 15 ans. Pas très profond, mais c'est quand même quelque chose. Il y en a qui la font à 18 ans, c'est plus sérieux. Il y en a à 20 ans, 23 ans, 24 ans. Bon, quand on parle de vocation, c'est ça. On est attiré vers quelque chose qu'on ne sait pas très bien ce que c'est. Alors, il y a une connaissance nouvelle qui se fait. Une connaissance nouvelle. Jusque-là, on était... On se sait conduire. Et c'est ce qu'on a à faire maintenant, parce que avec des examens psychologiques, on va vous diriger. Vous avez des aptitudes à être chirurgien. Parce que vous avez des mains de chirurgien. C'est la main, c'est très importante. Vous avez la tête du postier, la main du charneveur. Alors on va essayer de faire le lien entre les deux. Mais il y a les dualités. Petit à petit, la vocation va arriver, il va être l'unité. Jusque-là, je ne savais pas très bien. Oui, il y a une expérience d'amour qui germe. Et on dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais je ne comprends pas comment cette connaissance nouvelle du bien, alors ça c'est la question, hein. Je ne comprends pas très bien comment cette connaissance nouvelle du bien réclame de poser le problème de la fin de l'être. Mais parce que justement, quand le chien a l'os dans la gueule, il ne comprend pas très bien pourquoi il mange un os. Il est intelligent. Il a l'os dans la gueule. Et il est heureux. Et il ne sait pas pourquoi. Mais il est heureux. Alors, voyez, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment cette connaissance nouvelle du bien réclame de poser le problème de la fin de l'être. Mais c'est justement cette connaissance nouvelle, c'est la fin de l'être. Je ne sais pas pourquoi le même. C'est la fin de l'être. Quand vous aimez, mais vous êtes intelligent. Et ne cherchez pas la fin en dehors de intelligent. Intelligent, c'est l'immanence de la fin. Oui, l'os dans la gueule du chien. Et dès qu'il a l'os dans sa gueule, ce chien méchant devient bon. J'ai fait cette expérience en Afrique, là, avec ces oiseaux qui sont terribles. Et alors, ces petits bords de pêche, où les poissons arrivaient, les femmes prenaient ces poissons, et puis on enlevait tous leurs intestins, tous leurs voyages, tout ça, on les jetait. Puis ces bêtes étaient là, ces bêtes sauvages. Effectivement. J'ai retouché leur tête. Je sais exactement comme pour le petit chat. Puis vous voyez, prochez pas. Entelegaya. Alors pour eux, c'était la gourmandise parfaite. Il y a des gens qui sont dans leur béatitude quand ils sont gourmands. Le chocolat. Noblesse entre ceux qui prennent les entrailles de poissons et puis prennent ça, projettent ça, pour eux c'est leur délice. Oui. Et c'était heureux. Et à ce moment-là, il n'y avait plus rien d'autre que ça. Il n'y avait pas de finalité en dehors. Et la finalité, elle était à l'intérieur. C'était prendre ses boyaux, intelligent. Il faut voir ça et comprendre cela. Alors, vous voyez, donc, attention, mais je ne comprends pas comment cette connaissance nouvelle du bien réclame de poser le problème de la fin de l'être. Mais c'est la fin de l'être. En aimant, vous touchez la fin de l'être. C'est ça qui est extraordinaire. Quelle est la démarche ou le métaxu permettant, à partir de cette nouvelle connaissance, de poser l'interrogation en vue de quoi l'être. Parce que si je fais qu'une seule expérience, je ne vois pas. Mais si je vois dans un autre domaine, dans le domaine de l'intelligence, dans le domaine de ma vie, je dors et je suis éveillé. C'est en étant éveillé que vous êtes intelligent. Alors vous comparez ces situations différentes et qui sont toujours parallèles. C'est pour ça, induction, synthétique, donc ils prennent des niveaux différents, analogique, parce que ces niveaux différents sont tout à fait différents et ont quelque chose de commun. C'est très intéressant ça, parce que au fond, ne saisissant pas quantitativement la fin, par l'amour. Vous ne pouvez pas saisir quantitativement la fin. C'est la parole de Pascal, hein, ce que je vous disais. Le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas. La raison que des quantitativement. Le cœur est au-delà de la connaissance quantitative. Il est au-dessus. Pourquoi est-il dans la jouissance et la joie et le repos quand il mange les entrailles de poisson? Pourquoi? Simplement parce que c'est son bien. Et qu'il savoure son bien. Il ne se pose pas de questions à ce moment-là. Il n'en a aucune. posera la question quand de fait il ne sera plus et qui fera une autre expérience analogue à celle-là et une autre expérience analogue à celle-là et une troisième expérience analogue à celle-là. Et Marita appellerait ça l'intuition de l'être. Vous voyez, c'est tout à fait semblable quand vous faites ceci et... Bon, vous regardez le petit chat, vous regardez Raïssa, vous regardez la table, vous regardez la vache, ceci est, vous voyez, vous ébranlez le ceci en voyant qu'il y a toujours une relation analogue, semblable, entre ceci et l'existé. C'est toujours l'existé, et le ceci varie. Il y a quand même quelque chose de très curieux. Comment l'existé se trouve être de diverses manières. Alors qu'est-ce qui est de premier ? C'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'il y a de premier dans l'être ? Qu'est-ce qu'il y a d'ultime dans l'être ? Et quand vous posez la question « qu'est-ce qu'il y a d'ultime dans l'être ?», vous posez la question de la finalité, telos, ce qui est ultime dans l'être. Comme c'est très difficile de saisir ce qui est ultime dans l'être, parce que ce qui est ultime dans l'être est indivisible. Vous vous servez d'un tremplin, d'un sycomore, pour mieux voir. Vous faites l'expérience de ce bien. Vous êtes dedans, entelekeia. Et alors, ayant fait, mais quand vous aimez, vous ne posez pas la question qu'est-ce que c'est que la fin de l'être. Vous aimez. Sauf si vous êtes scrupuleux. Métaphysiquement scrupuleux. Alors, métaphysiquement scrupuleux. Mais pourquoi je suis heureux? Quand vous rencontrez quelqu'un que vous aimez, vous êtes heureux. Mais pourquoi je suis heureux? Mais parce que vous aimez, tout simplement. Quoi. C'est votre ami et il est source pour vous de joie. Mais pourquoi est-il source de joie pour moi? Mais c'est parce que c'est votre ami et que vous l'aimez. Ne cherchez pas d'autres raisons. Si vous cherchez une raison quantitative, mais non, vous supprimez l'amour. Vous n'êtes pas heureux quand vous découvrez la forme, la détermination. Ça doit être comme ça. Alors, il y a une certaine stabilité de l'intelligence. Ça doit être comme ça. Oui, c'est bien ça, mais vous n'êtes pas heureux. Vous n'êtes heureux que quand vous dépassez l'aspect quantitatif. Vous voyez, alors ce qui est terrible, c'est qu'un Descartes nous a enfermés dans l'aspect quantitatif. C'est que l'idéalisme nous enferme dans l'aspect quantitatif. En mettant le primat de l'idée. Si vous mettez le primat de l'idée, vous ne pouvez pas sortir de cette prison dorée. Et vous n'avez plus aucune expérience. Et vous êtes dérangé quand vous faites cette expérience. Mais non, c'est pas bien. Je dois revenir à la quiétude. Là, c'est clair, c'est net. Donc vous voyez, vous faites cette expérience du dérangement de la quiétude, du dépassement de la quiétude par entelekeia. Je suis heureux d'aimer. Alors vous faites cette expérience diverse et vous dites, c'est curieux, je vois partout le même ordre de l'imparfait vers le parfait. Et le parfait s'impose et je demeure dans le parfait. J'aime. Alors vous vous posez la question, que signifie exactement cet ordre qui se répète constamment de l'imparfait vers le parfait? Qu'est-ce que ça signifie? Vous voyez, si vous ne posez pas la question « qu'est-ce que ça signifie ?», vous ne trouverez rien. Mais vous posez la question « qu'est-ce que ça signifie ?» Comment se fait-il que l'amour, aux différents niveaux, l'appétit qui s'actue, c'est l'amour. Comment se fait-il que l'amour me met dans le repos ? Je suis dans la joie. Je suis parfaitement moi-même. Je ne cherche plus rien. C'est ça le repos, c'est quand on ne cherche plus rien. là où, interrogeant, vous voyez qu'il y a quelque chose de semblable à ces différents niveaux. C'est que ce qui est imparfait, ce qui n'est pas parfaitement déterminé, est ordonné à ce qui est parfaitement déterminé, et même qui est au-delà des déterminations, qui est un au-delà, dont j'ai l'expérience amoureuse. S'il n'y a pas l'expérience amoureuse, tout ça, c'est du chinois. C'est... Alors, vous demandez aux spécialistes chinois pour me l'expliquer. Vraiment. Si j'ai pas l'expérience, si j'ai l'expérience amoureuse, ah, oui, oui, je vois. Qu'en effet, quand je dis ceci est et que j'aime, c'est pas la même chose. Quand je dis ceci est, je suis tout à fait stable, pondéré, ceci existe. Et si tu dis que c'est pas, ça n'existe pas, ça prouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tout le monde peut dire ceci. Tandis que quand vous aimez, c'est dommage que tout le monde ne comprend pas ça. C'est dommage que tout le monde n'a pas cette expérience amoureuse. Alors, on vous montre que cette expérience amoureuse, vous pouvez l'avoir tous les jours, en vous réveillant. Hein ? Expérience amoureuse de votre être en vous réveillant. Ça, vous n'êtes pas encore arrivé à ça. Et c'est pourtant vrai, expérience amoureuse de vous réveiller. Le réveil est une joie, c'est une fête. C'est la première fête de la journée. Oh, je me suis réveillé ce matin. C'est une genre de pentele qu'il y a dans l'ordre de votre vie. Vous êtes éveillé. Et si quelqu'un est là qui frappe à la porte, dit, attends, je me réveille. Et puis je te verrai après. Et quand vous êtes éveillé, vous pouvez voir, vous pouvez aimer. Condition sine qua non. Vous n'aimez pas quand vous dormez. Incapable. Parce qu'il n'y a pas la connaissance. Oui, alors essayez de saisir ce passage et la naissance de l'interrogation. La naissance de l'interrogation se fait dans la diversité et la soif d'unité. L'intelligence cherche toujours l'unité. C'est ça qui attise l'appétit de l'intelligence. Parce que la vérité se fait dans l'unité. La conformité de ce que je pense et de la réalité. Alors il faut essayer de saisir la naissance de cette interrogation, qui est quelque chose de très fort, de très grand, à partir de ces expériences multiples. Et je vois alors à ce moment-là qu'il y a en effet quelque chose de commun à travers tous ces états. Il y a quelque chose de commun. C'est que je touche mon bien. Et je le touche uni à mon bien en l'aimant. Le bien de l'appétit sensible. J'ai très faim ce matin. J'attends le petit déjeuner. Et puis quand vous serez le dé dans votre bol, en lapant le thé. Ça, il est bon ce matin. Ah, il est effrayant ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Mais... Et quand il n'est pas bon, vous ne pourriez pas ne pas tenir dedans. Qu'est-ce qu'il y a? Vous commencez à être de mauvaise humeur. Parce que vous avez attendu quelque chose de bon et vous ne l'avez pas. Premier refoulement. Alors, si vous êtes très sain, S-I-N-T, c'est merveilleux. Je commence. commence ma journée par un sacrifice. C'est-à-dire, je t'offre ce thé mauvais. Parce que je n'ai pas la satisfaction. Mais je la dépasse par un autre bien. Ce bien de l'adoration. Ce bien de la louange. Ce bien de l'action de grâce. Mais vous êtes très religieux pour ça. Mais vous êtes un pieux novice. C'est comme le novice est terminé. Hein ? Tous les refoulements du noviciat sortent avec violence. Je dis pas que la profession, c'est ouvrir tous les refoulements, non. La profession, ça va encore. Et un vieux religieux. On a tous vu des vieux religieux de mauvaise humeur. Et la mauvaise humeur commence au café du matin. C'est effrayant. On n'a même pas ça ici. Alors ça, c'est dans tous les vieux refoulements qui renaissent. Mais quelquefois, l'expérience du refoulement fait comprendre ce que c'est que la négation de la délégation. Parce que c'est à l'égard de la fin que se font les refoulements. Beaucoup plus qu'à l'égard de la substance. La substance, elle demeure. C'est-à-dire que la fin ne demeure pas. Vous l'attrapez dans l'ordre de l'exercice. Autre question. Vous dites que ce qui suscite l'amour de l'être, c'est qu'il est convertible. Non, je n'ai pas dit que c'était parce qu'il est convertible. Ce qui suscite l'amour de l'être, c'est parce que l'être est bon. Ou l'être peut être bon. Et là, je sais qu'il est convertible de l'être. Thank you. ne peut se faire qu'en face d'une réalité existante. L'idée que je peux avoir du bien me séduit, mais ne m'attire pas. La différence entre ce qui est pensé et ce qui est réel. Ce qui est pensé peut séduire, mais n'attire pas. Parce que c'est immanent, c'est en moi. expérience. Celui qui dort est celui qui est éveillé. C'est Pierre qui dort. C'est Pierre qui est éveillé. Et quelle est la nouvelle détermination? Il est éveillé. C'est un état. C'est pas de détermination. Et alors même si il continue de dormir, on me dit, mais réveille-toi, tu n'es pas le même qui reçoit, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Qu'est-ce que tu as fait? Voyez, on le réveille pour que toutes ces déterminations et toutes ces qualités soient là. Et que toutes ces qualités, toutes ces déterminations soient en acte. Hein? Soient en acte. Réveille-toi. L'architecte qui peut construire et qui construit, pour être fait détermination, tout est dans l'habitus et l'exercice. Découvrez comment l'exercice est autre que la détermination. Ne soyez pas spinoziste. Parce que Spinoza ramène tout à la substance. La grenouille qui veut devenir aussi grosse que le bœuf. Alors soufflez, puis ça va éclater. Vous arrêtez l'exercice dans l'éclatement. C'est curieux, il y a un phénomène nouveau, ça éclate. Il sera le premier éclatement auquel vous assisterez, l'exercice. Quand vous bougez d'un lieu à l'autre, est-ce que vous changez? Est-ce que votre détermination est liée à ce lieu? Vous pouvez dire, il y a des lieux où je travaille mieux que d'autres. Tel endroit, j'arrive pas à travailler. C'est vrai, dans un hall de gare, vous avez pris un livre métaphysique, le livre de Zeta. Je vais le lire. Ah, dans ce hall de gare, c'est très difficile. C'est toute espèce de gens qui passent, je suis distrait. Ah oui, vous n'arrivez pas à vous concentrer. Hein, et vous concentrer, est-ce que c'est changer de détermination ou c'est tout simplement un état? Essayez de comprendre que au-delà de vos déterminations et de vos qualités, il y a l'exercice qui est autre chose. Alors je prends l'amour parce que c'est l'exercice le plus psychologique qui soit, sachant très bien que le psychologue ne pourra pas me dire ce que c'est que l'amour. Il ramènera l'amour à l'exercice. De l'être, je saisis que je passe de l'imparfait au parfait. Je ne serai saisi que par une détermination particulière de l'être. C'est au-delà du mode quotidatif. Alors ça, il faut faire l'expérience. Ça. Tant qu'on n'a pas fait l'expérience de l'amour, on ne peut pas découvrir l'être en acte. Oui. Parce qu'il y a des aveugles par rapport à l'amour. Ils sont heureux de regarder et d'analyser. Ils ne savent pas ce que c'est qu'aimer. Celui qui a fait l'expérience de l'amour, c'est donc de l'entelekaya, c'est que c'est quelque chose d'irréductible. Je ne peux pas le ramener à l'acuité. Je ne peux pas le ramener à la détermination. Mais ça... Si on n'a pas fait l'expérience, je comprends très bien. Mais on peut tous faire cette expérience dans les 5 niveaux. Je vous dis, l'expérience fondamentale, c'est de se réveiller. Mais si on est somnambule toute la journée, on est somnambule. Alors vous ne ferez pas la référence d'être réveillé, puisque vous restez somnambule. Il y a des somnambules dans l'ordre de l'amour. Jamais compris qu'aimer, c'était découvrir un bien qui m'a dit. Et c'est la réalité, c'est même la réalité la plus intéressante, quoi. C'est à ce moment-là où je vis, c'est à ce moment-là où je suis, puisque pour moi, vivre, c'est être. C'est à ce moment-là que je suis parfaitement moi-même. Tant que je n'aime pas, ben oui, je suis réglo. Et puis c'est tout. Je reste dans les déterminations, mais je ne vis pas pleinement. Est-ce que c'est parce que je ne fais pas l'expérience du bien qui est en moi ? qu'il est au-delà des terminations. Vous voyez, l'expérience du bien qui est en vous, c'est beaucoup plus difficile. Alors ne cherchez pas l'expérience du bien qui est en vous. Cherchez l'amour à l'égard de l'autre. Le bien, c'est ce que je découvre dans celui qui m'attire. Vous n'êtes pas nécessairement en acte d'attraction vis-à-vis de vous-même. C'est extraordinaire, comme je suis bien en moi, c'est admirable. Et tout ce qui n'est pas moi, c'est effrayant, c'est effrayant. Non, ne faites pas cette expérience-là, parce qu'elle n'est pas bonne, cette expérience. Elle n'est pas juste, elle est imaginative. Vous n'êtes pas pour votre bien. Je regrette, mais c'est comme ça. Tandis que vous êtes pour vous, votre Hestia, la petite déesse qui demeure. Ah oui, ça. Elle est admirable, cette petite déesse. Mon âme, ma substance. Là, je suis bien. C'est vrai, la substance, découvrez-la en vous. Et le bien, découvrez-le en l'autre. En premier lieu. Après, vous pourrez le découvrir en vous. Mais découvrez le bien d'abord en l'autre. C'est comme pour l'aliment, la découverte du bien, l'aliment. Et ne prenez pas un petit déjeuner intentionnel. Ça sent le café, c'est suffisant pour moi. Et vous seriez quelqu'un qui viendrait pendant 3 minutes. Et puis ça va. Terminé. C'est merveilleux au point de vue économique. Non, on veut manger quelque chose. Voyez, le réalisme, il est là. L'autre. Je découvre le bien. J'aime. Et on découvre ce bien à tous les niveaux. Le niveau végétatif d'abord. Le niveau être éveillé. Et vous allez dire, quand je suis éveillé, c'est moi. Oui, c'est sûr. Mais vous passez l'état parfait de celui qui dort, celui qui est éveillé. Et à ce moment-là, tout est prêt en vous pour aimer. Et c'est vrai que ce premier amour, ce n'est pas d'être éveillé. Être éveillé, la condition sine qua non pour pouvoir aimer. Parce que vous découvrez l'autre. Donc voyez, comprenez bien que cette induction de l'être en acte implique l'expérience de l'amour, de l'entelekaya. Voilà le métaxu. Si vous n'avez pas l'expérience de l'entelekaya, vous ne trouverez jamais. C'est pour ça qu'Aristote a inventé ce mot, en montrant comment c'était difficile de découvrir l'être en acte. C'est beaucoup plus facile de découvrir l'être quantitatif, la substance. Combien c'est difficile de découvrir l'être en acte, et c'est pour ça qu'il faut regarder l'entelekaya. Et regardez l'entelekaya dans ma soif d'atteindre l'être parfaitement, d'atteindre l'être dans ce qu'il a de plus lui-même, d'atteindre la réalité existante dans ce qu'elle a de plus elle-même, en tant qu'elle est bonne, en tant qu'elle suscite en moi un amour. Vous voyez ainsi bien l'interrogation ultime sur ce qui est. Ce qui est peut être bon et peut susciter en moi un amour. Alors je ne prendrai pas n'importe quoi comme expérience. Je ne prendrai pas l'expérience de le matin en me réveillant, je dois prendre un remède. Ce remède est très pavé. Aujourd'hui, on fait toujours des remèdes très bons. Beaucoup confondent le bon et le mal, le remède et la finalité. Et il y a des gens qui sont finalisés par leur remède. Ils en prêtent dès qu'ils se réveillent, au petit déjeuner, à midi, en plein après-midi, le soir. Ils vivent de remèdes. et la journée est ponctuée de remèdes, et le remède devient la finalité. Et si tout d'un coup il s'oublie le remède, oh, c'est effrayant. Plus rien ne va. Et on suscite en soi un malaise étonnant. J'ai pas pris le remède. Parce que vous êtes finalisé par le remède. C'est la tactique, hélas, constante aujourd'hui. On vous fout de remède. Du matin jusqu'au soir et du soir au matin. C'est curieux, ça, c'est très curieux. On devient un monde qui ne vit plus que de remède. Or, le remède est un moyen qui n'est bon qu'en raison de ceux qui le conduisent vers la santé. Mais si un remède ne conduit jamais à la santé, ce n'est plus un remède. Alors, c'est un faux remède. Et il y a des faux remèdes qu'on invente pour que le malade soit satisfait. Parce que le malade aime mieux le remède que sa santé. C'est curieux, ça. Vous voyez, ça, c'est l'image de notre monde aujourd'hui. C'est qu'on ne découvre plus la finalité, on n'aime plus. Mais on aime tout ce qui cache la finalité. Donc, vous êtes très attentif à ça. Si on a, si on n'a pas l'expérience de l'entele Gaïa, vous ne pouvez pas découvrir l'être en acte. Comme si vous n'avez pas l'expérience de l'acuité, vous ne pouvez pas découvrir la substance. Mais les deux moyens termes qu'Aristote nous donne pour les deux grandes inductions. Parce que si mon intelligence n'interroge pas, il n'y a pas d'induction. Alors ne dites pas, à partir de là, que vous, ce que vous découvrez, c'est tout simplement ce que vous avez pensé. Ce que vous avez découvert dans l'induction, dans l'interrogation. Non. L'interrogation reste objective. C'est la réalité que je saisis. Mais c'est vrai qu'il faut que mon intelligence soit actuée à sa manière par le métaxu pour qu'elle soit suffisamment pénétrante et qu'elle aille jusqu'au bout. Et ceci d'autant plus qu'on est vis-à-vis de l'induction de l'être en acte. Mais je comprends que c'est pas commode. Parce que on n'a pas assez distingué dans notre vie ce qui relève de l'appétit de notre intelligence et ce qui relève de l'appétit du sujet. L'intelligence cherche la vérité et la vérité formelle n'existe que dans l'intelligence. Et le sujet qui interroge cherche le bien. Et le bien est dans la réalité. Alors, il faut pouvoir faire cette petite distinction. Alors, entele Gaïa, c'est le bien en moi qui me met dans un état intellectuellement euphorique qui permet à mon intelligence d'interroger. Qu'est-ce qui finalise l'être? Qu'est-ce qui est ce bien ultime dans l'être? Qu'est-ce qui est ce au-delà de quoi je ne peux pas aller? Ce qui est ultime. Et je découvre à ce moment-là l'être en acte. Comme cette distinction est très difficile, c'est vrai, c'est pas commode, c'est finir la fin. Et que facilement on reste dans l'expérience immanente. Entele Gaïa. Tout de suite, je découvre que l'être en acte, je le saisis à des niveaux différents, à des modalités différentes. Et ceci est important à saisir, ces diverses modalités. Vous voyez, quand je saisis l'ousia, je saisis à partir de l'ousia les 10 prédicaments. Les 10 prédicaments m'ont conduit à l'ousia. Ayant saisi l'ousia, je retourne aux 10 prédicaments. y a quelque chose d'analogue à la saisie inductive de l'acte, de l'être en acte. Je découvre l'être en acte. L'énergie. Je sais l'être en acte à partir des divers états. C'est plus les prédicaments, c'est les divers états. Ce qu'on a vu, les divers états imparfaits. Et ayant découvert l'être en acte, je reviens pour regarder ces divers états de perfection. Je laisse tomber l'imparfait.